Et les matins débutent avec le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La justice décide de suspendre un arrêté anti-pesticides pris par un maire d'Ille-et-Vilaine. Il interdisait de propager des produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. Or, c'est à l'État de prendre une telle mesure, explique le tribunal. Une affaire qui témoigne de l'ambiguïté de la position du gouvernement en matière d'environnement.
Les chefs d'État russes et turcs, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, se sont rencontrés hier en Russie pour discuter de la situation en Syrie. La crainte est celle d'une confrontation entre les armées turque et syrienne à Idlib, une zone pilonnée par les forces de Bachar el-Assad.
Aux États-Unis, ce n'est pas un procès, mais c'est une étape dans la libération de la parole des victimes. Une quinzaine d'accusatrices du milliardaire Jeffrey Epstein ont pu témoigner devant un tribunal fédéral. Et la question du jour, Guillaume, dans une dizaine de minutes.
Eh bien, on va en Indonésie, Maxime. Comment un pays peut-il changer de capitale? On posera la question au géographe Jean-Fabien Steck.
Mais avant cela, évoquons cette prouesse réalisée par les cybergendarmes du Centre de lutte contre la criminalité numérique de Pontoise. Ils sont parvenus à neutraliser un réseau pirate qui a pris la main sur plus de 850 000 ordinateurs dans le monde. Le serveur de ce réseau, qu'on appelle un botnet, était basé en Île-de-France, Emmanuel Leclerc.
Réussir à mettre en réseau des ordinateurs infectés par un virus, à l'insu de leurs propriétaires, prendre le contrôle de centaines de milliers de machines zombies à distance sur différentes versions de Windows, c'est exactement ce qu'a permis depuis 2016 le virus RetaDup. L'affaire remonte au début de l'année. Le fabricant d'antivirus Avast signale l'existence possible d'un serveur pirate basé en France et qui semble avoir pris la main sur des milliers d'ordinateurs à travers la planète grâce à un programme malveillant. On appelle cela un botnet, l'un des réseaux pirates le plus puissant jamais constitué. Le colonel Jean-Dominique Nollet est le chef du C3N, le centre de lutte contre la criminalité numérique.
Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais 850 000 ordinateurs infectés, c'est une puissance de feu énorme qui permet de faire tomber tous les sites de la planète s'ils le veulent. Il fallait vraiment faire cesser l'infraction.
Pour les cybergendarmes, les créateurs du méga botnet ont réussi des attaques d'envergure depuis 3 ans qui ont généré plusieurs millions d'euros de revenus criminels.
Il est connu pour avoir attaqué les hôpitaux d'Israël et d'avoir volé les données des patients en Israël. Il est connu pour faire énormément de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'il fabriquait de l'argent directement avec ses 850 000 ordinateurs.
Mais le tour de force des cybergendarmes, c'est d'avoir réussi à pirater légalement le botnet et son serveur installé en France pour désinfecter ensuite les ordinateurs contaminés dans 150 pays sur la planète.
Grosso modo, on a réussi à détecter où était le serveur de commandement, la tour de contrôle du botnet, et on l'a copié, on l'a répliqué avec un serveur à nous, et on lui a fait faire des choses qui permettent au virus d'être inactif sur les machines des victimes. Là, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'envoyer du code aux ordinateurs victimes pour désactiver les virus, pour que les gens soient tranquilles.
Dans cette affaire hors norme, le FBI et la justice américaine ont permis de bloquer sur Internet des noms de domaines déposés aux États-Unis. Ainsi, à chaque connexion sur la toile, les ordinateurs infectés étaient redirigés très discrètement vers le serveur des cybergendarmes de Cergy-Pontoise et nettoyés au passage. Techniquement et judiciairement, c'est bien une première mondiale.
Le reportage d'Emmanuel Leclerc pour France Culture. Autre service de l'État qui a permis cette fois de récupérer beaucoup d'argent placé à l'étranger, c'est la cellule de Bercy mise en place après l'affaire Cahuzac. L'État confirme avoir récupéré 9,4 milliards d'euros en impôts et amendes entre 2013 et 2018. Près de 50 000 dossiers ont été traités. La justice a donc décidé de suspendre un arrêté anti-pesticides pris par un maire, le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine. Il interdisait les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Or, ce pouvoir n'appartient pas au maire, mais à l'État, c'est ce qu'a dit la justice. Et si le gouvernement souhaite faire évoluer cette réglementation, Stéphane Robert, la loi doit être respectée en attendant.
Cette affaire de l'arrêté anti-pesticides de Langouette peut apparaître comme une nouvelle illustration d'une attitude ambiguë de la part du chef de l'État en matière d'environnement. Vendredi dernier, dans une interview à Combini, Emmanuel Macron avait déclaré soutenir le maire de Langouette dans ses intentions. Il a raison sur ses motivations, avait dit le président, mais il avait aussi rappelé qu'il faut respecter la loi et qu'il sera toujours derrière les préfets qui font respecter la loi. Et en l'occurrence, pour l'instant, la loi prévoit que c'est le ministère de l'Agriculture, autrement dit l'État, qui est compétent en matière d'autorisation d'épandage de produits phytosanitaires, pas les maires. Cette affaire rappelle la volonté affichée par le pouvoir exécutif d'interdire l'utilisation du glyphosate à partir de 2021, mais que le gouvernement avait refusé d'inscrire dans la loi l'année dernière, donnant l'impression de ne pas mettre les actes en conformité avec le discours du président de la République. Et les arguments employés alors étaient les mêmes que ceux avancés aujourd'hui à propos de l'arrêté anti-pesticides de Langouette. On va changer les choses, mais il faut prendre le temps de discuter avec les agriculteurs parce que tout ça est compliqué, parce que tout ça a un coût, parce qu'il faut les accompagner. On est là pleinement dans le « en même temps » macronien, en même temps l'économie et l'environnement, en même temps la croissance et l'écologie. En attendant, les préoccupations et les inquiétudes montent au sein de la population en matière de pollution et d'environnement. D'autres maires ont pris ces derniers mois, ces dernières semaines, des arrêtés anti-pesticides, à l'image, la semaine dernière, de la maire de Parampuire, une commune de 8000 habitants près de Bordeaux.
Analyse de Stéphane Robert. L'Élysée annonce hier que le candidat français à la Commission européenne n'est pas encore arrêté. Le nom qui doit remplacer Pierre Moscovici devait pourtant être annoncé hier. De son côté, le MEDEF va faire sa rentrée aujourd'hui avec une rencontre des entrepreneurs de France. Ça se passe à Longchamp. Un thème, nos futurs, quel capitalisme demain? Le patronat tentera ainsi de traiter de différentes thématiques comme les inégalités, le climat ou encore l'Europe. Le but, Anne-Laure Jumet, c'est d'être en pointe sur ces sujets qui gagnent les entreprises.
Comment répondre aux préoccupations des citoyens sur le climat ou encore aux enjeux d'égalité et de diversité? Sur ces sujets, la première organisation patronale reste peu audible. Les initiatives viennent aujourd'hui du terrain. Et en choisissant ce thème de l'avenir du capitalisme pour son université d'été nouvelle formule, le MEDEF compte bien se saisir de ces questions. Il va d'ailleurs continuer à défricher ces thématiques. Il compte ainsi instaurer un dialogue permanent avec les ONG via des commissions thématiques tout au long de l'année. Il souhaite aussi avoir plus de capteurs dans les régions en accordant davantage de place aux MEDEF territoriaux. Il faut dire que la crise des Gilets jaunes est aussi passée par là. En tout cas, le MEDEF doit se réinventer alors qu'il est en train d'être dépossédé de plusieurs de ses missions. Les régimes de retraite complémentaires qu'il gère avec les syndicats sont appelés à disparaître. Et en reprenant la main sur l'assurance chômage, le gouvernement a délégitimé l'action des partenaires sociaux. Bref, le MEDEF a tout intérêt à devenir le porte-parole d'une entreprise créatrice de sens et ne pas apparaître simplement comme une organisation de lobbying, appelant régulièrement le gouvernement à baisser les charges.
Anne-Laure Jumet. Deux policiers palestiniens sont morts hier dans une explosion dans la bande de Gaza. Un autre a été blessé. L'armée israélienne, de son côté, assure n'avoir effectué aucun raid aérien. Plus au nord, dans la région, c'est à Idlib, en Syrie, qu'un regain de tension est constaté. Hier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, pour évoquer cette situation. L'armée syrienne est très active dans la zone, au point d'être presque en contact de l'armée turque. La Russie a donc joué le rôle de médiateur, Claude Brouillot, et rappelle son rôle incontournable sur cette question.
Dès le lendemain du G7, Vladimir Poutine a voulu montrer qu'il restait maître d'un certain calendrier, en l'occurrence celui du dossier syrien, en recevant donc à Moscou le numéro 1 turc Recep Tayyip Erdogan. Au moment où la situation semble empirer au nord dans la région d'Idlib, frontalière justement de la Turquie, Erdogan est venu dire à Vladimir Poutine que ses soldats stationnés dans une zone tampon à l'intérieur même de la Syrie, officiellement pour éviter un afflux de réfugiés sur son territoire, n'allaient pas continuer à rester longtemps des cibles pour l'armée syrienne d'Al-Assad, qui a donc repris ses offensives dans la région depuis le début du mois. Ce à quoi Vladimir Poutine a répondu qu'il comprenait les inquiétudes du président turc. Les deux hommes ont ensuite annoncé que des mesures supplémentaires allaient être prises pour normaliser la situation, sans que l'on sache évidemment très précisément lesquelles. Mais la problématique reste toujours la même. La Turquie soutient des rebelles sur le terrain en voulant sécuriser sa frontière sud, pendant que Damas, elle, veut récupérer la maîtrise de la région d'Idlib avec l'appui de l'aviation russe et considère donc ces rebelles comme des ennemis terroristes. Pas certain que dans cette rencontre d'hier à Moscou, Vladimir Poutine aura réussi à éviter ce qui se profile de plus en plus, à savoir une confrontation directe entre l'armée turque et l'armée syrienne.
Claude Brouillot. Le Brésil accepte finalement l'aide financière proposée par le G7 pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie. 20 millions de dollars initialement refusés par le pays. Pour Jair Bolsonaro, il faut que le Brésil reste souverain sur la gestion de cet argent. Le président brésilien, qui a reçu le soutien sans réserve de Donald Trump. Il travaille très dur sur ces feux. Il fait un très bon boulot pour le peuple brésilien, assure le président américain. Les États-Unis, où une quinzaine de femmes qui accusent Jeffrey Epstein de viol et agression sexuelle ont pu témoigner devant un juge. Une audience exceptionnelle a eu lieu devant le tribunal fédéral de Manhattan. Le dossier va se clore avec la mort du milliardaire. Et si cette audition ne remplace pas un procès, Grégory Phillips, elle permet au moins une libération de la parole.
Bien sûr, ce n'est pas un procès après la mort du principal suspect. Mais au total, 16 femmes sont venues à la barre de ce tribunal fédéral. 7 autres ont fait lire une déclaration par leurs avocats. Parmi les premières à témoigner, Virginia Guiffre, elle a raconté comment à l'âge de 16 ans, elle a selon elle été recrutée par l'amie de Jeffrey Epstein, la Britannique Ghislaine Maxwell, puis comment le millionnaire l'a ensuite violée. Nous devons aller jusqu'au bout de cette affaire, dit-elle hier sur les marches du tribunal, pour savoir qui est impliqué. J'ai été piégée dans un monde que je ne connaissais pas, mais je ne me tairai plus jusqu'à ce que tous ces gens soient traînés en justice. À l'issue de ces 3 heures d'audience, l'avocate Gloria Allred, qui représente plusieurs de ces femmes, lance un appel. Certaines victimes ont encore peur de parler parce qu'elles redoutent que des amis ou des associés d'Epstein tentent de les intimider. Si vous avez été victime ou si vous vous sentez menacé, contactez-moi. J'alerterai les services de police. À l'audience, enfin, les avocats représentant encore Jeffrey Epstein ont demandé à ce que les 2 enquêtes sur les circonstances de sa mort se poursuivent. Suicide apparent, a conclu la justice américaine, mais ce décès, le 10 août dernier, dans une cellule de l'une des prisons les plus surveillées de Manhattan, reste encore assez mystérieux.
Reportage de Grégory Phillips. En Martinique, la tempête tropicale Dorian a fait quelques dégâts, notamment des inondations dans le sud de l'île, mais aucune victime n'est à déplorer. La tempête pourrait toutefois se transformer en ouragan en se rapprochant de Porto Rico. Le temps sera plus calme en France sur la majeure partie du pays. Un ciel globalement nuageux un peu partout, mais le soleil reste présent. Les températures vont de 15 à 19 degrés en général ce matin, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Maxime Fayolle.